Du 5 septembre au 31 octobre, retrouvez La Jeunesse n'a pas d'âge tous les lundis à 19h et en rediffusion les dimanches à 9h sur les ondes de Choc FM 105.1. La Jeunesse n'a pas d'âge, c'est une toute nouvelle série d'émissions portant sur les aînés et leur intégration au sein de la société en partenariat avec le gouvernement du Canada. Avec La Jeunesse n'a pas d'âge, rapprochons les générations.
Toujours sur les ondes de Choc FM 105.1, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de retour pour notre quatrième volet de La Jeunesse n'a pas d'âge, votre nouvelle émission hebdomadaire sur Choc FM 105.1, qui est co-présentée par Madeleine Favre et Raki Touré. Le but de cette émission est de parler des aînés et de leur intégration à la société à travers des entrevues et tables rondes de spécialistes ainsi que les témoignages d'aînés qui s'engagent et prennent part à leur communauté en français.
La Jeunesse n'a pas d'âge a reçu le soutien du gouvernement du Canada dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2016. Cette semaine, notre émission a pour thème la FARFO, la Fédération des aînés et retraités francophones de l'Ontario. Nos chroniqueuses Anne-Marie et Lisa Nanoff ont pu interviewer Andréanne Goujon, Denise Lemire, Elisabeth Allard et enfin M. Oliver Roy. Nous commençons avec Andréanne Goujon, qui est coordonnatrice des bénévoles et coordonnatrice des programmes.
Vous êtes de retour sur les ondes de Choc FM à l'émission La Jeunesse n'a pas d'âge et aujourd'hui, on reçoit Madame Andréanne Goujon. Bonjour.
Bonjour, Madame Anne-Marie.
Ça va bien?
Ben oui, tout à fait.
Donc vous, si je me trompe pas, vous êtes coordonnatrice des bénévoles à la FARFO. C'est
oui,
bien ça?
Oui, effectivement. J'ai un chapeau aussi de coordonnatrice de programme.
Okay.
Donc, c'est peu deux chapeaux là que je porte par rapport à un projet qui s'appelle Sécurité Info Santé.
Oui, qu'on va parler un petit peu plus tard là par la suite, qui est très intéressant. Donc, parlez-nous un peu de votre parcours socio-professionnel. Donc, comment vous êtes rendue à avoir ce poste-là à la FARFO?
Je vous dirais que c'est un peu par hasard. Moi, je suis une jeune, pas encore retraitée, mais une jeune aînée de 53 ans.
Oui.
Alors, j'ai du bagage en arrière de moi, entre autres, au niveau éducatif. J'ai un bac essor avec une concentration en psycho. J'ai un diplôme collégial et également. J'ai un certificat en animation et j'ai une maîtrise en relations industrielles. Puis au niveau d'expérience, j'ai travaillé autant à la Société de l'aide à l'enfance
okay.
qu'en gestion de ressources humaines. Et depuis 12 ans, je suis à mon compte avec mon associé. Notre entreprise s'appelle Lalande et Goujon. Donc,
okay.
je me suis retrouvée, c'était un petit peu plus lent au niveau de la consultation l'an dernier. Alors, j'ai commencé un petit peu à regarder autour de moi, puis j'ai vu ce poste-là l'année dernière de coordonnatrice et bénévole. Et je me dis, travailler de la maison.
Oui.
Mon Dieu, je veux faire ça, moi. Alors, je suis à l'entrevue et je suis, comme je vous disais, là, coordonnatrice et bénévole et depuis, plus récemment, coordonnatrice du programme Sécurité Info, okay. Info Santé.
Donc, en fait, comment vous considérez la contribution des aînés et des retraités de façon générale dans la société par rapport à votre expérience dans cet organisme-là?
C'est assez récent, mon expérience, mais quand même, je pense que les aînés ont une très, très grande contribution.
Oui.
Si on regarde juste au niveau du bénévolat, c'est sûr que quand on est retraité, on n'a pas besoin de faire beaucoup de publicité pour dire qu'on est retraité et pour se faire recruter.
OK.
comme bénévole. Mais c'est ça. Parce qu'on peut faire le choix de s'asseoir devant son téléviseur et attendre la mort.
Oui.
Mais c'est plate. C'est
oui.
absolument plate de faire ça. Parce qu'on a tellement à apporter comme...
Oui, à offrir.
Parce que au niveau du travail, si on a été sur le marché du travail, et même si on a été très, très engagé dans notre communauté en tant déjà que bénévole, c'est certain qu'à un moment donné, il y a peut-être des activités qui nous intéressent plus que d'autres.
Oui.
Donc, pour le mieux-être général, effectivement, les nouveaux retraités vont vous le dire, souvent, ils sont beaucoup plus occupés.
Oui, oui, j'entends beaucoup ça, c'est
comme,
vrai.
comme bénévole, que quand ils travaillaient même. Même des fois, c'est difficile de les rejoindre à la maison.
Oui.
Donc, et on peut chiffrer le bénévolat. J'ai pas les chiffres avec moi, mais c'est facile de trouver ça sur Internet, justement, pour dire, au niveau économique, quelle est la valeur du bénévolat? si ma mémoire est bonne, on parle de milliards. Alors, wow. Si on n'avait pas tous ces bénévoles, c'est certain qu'on serait une société, je vais oser dire, on serait une société, je pense, très pauvre.
Oui.
Donc, de par la non-contribution des gens.
Oui, certainement. Puis, en fait, la transmission d'expérience, puis je dirais de savoir aussi qui vient avec ce bénévole-là. qui vient donc ce partage-là qui serait perdu en fait.
Absolument. Et une des choses, c'est qu'il y a tellement de choses, il y a tellement d'activités aussi dans les communautés au niveau des aînés. Le par et pour, ça prend des gens qui viennent aussi soutenir, mais aussi il y a des gens qui sont en grande difficulté et là aussi on a tout un apport bénévole et qui est absolument essentiel. Les soins palliatifs,
oui.
La popote roulante, je veux dire, la liste, elle est très, très longue,
oui.
Où on a besoin de gens pour venir soutenir des gens qui sont en plus grande difficulté.
Oui. Est-ce que vous voyez, quel genre de différence vous voyez, en fait, où vous pourriez penser par rapport aux retraités, aux aînés d'aujourd'hui et aux retraités aînés qu'il y avait 30 ans plus tôt? Est-ce que vous voyez une différence?
Oui. Très, très bonne question parce que si on parle, bon, 2016 aujourd'hui, j'ai 65 ans et en 1986, c'est certain qu'il peut y avoir certaines différences. En 86, fait que vous étiez pas née, Anne-Marie, hein, on sait pas.
Quelques années plus tard, à peine.
À peine, hein? Peut-être une mauvaise passée. Non,
oui, exactement. Je suis des 3 années après, donc.
Donc, au milieu des années 80, évidemment, il y avait des taux d'intérêt au début des années 80 qui étaient très élevés. Autant pour acheter une maison, il fallait sortir beaucoup d'argent. Mm-hmm. Les paiements étaient très élevés. C'est sûr qu'il y avait des taux d'intérêt sur les placements qui étaient extrêmement intéressants, mais un ne va pas sans l'autre. Puis, mais encore aujourd'hui, on a encore des gens qui doivent quand même travailler très longtemps.
Oui.
Alors, les aînés sortaient des années des années 70, puis là, toute cette affaire-là dans les années 80. Donc, si on n'avait pas fini de payer la maison, aller renégocier son prêt hypothécaire, c'était quelque chose.
Oui.
Puis donc les enfants qui étaient peut-être dans certains cas pas nécessairement encore aux études, mais on veut continuer à les soutenir.
Oui.
L'autre chose, c'est que les aînés étaient beaucoup moins branchés que maintenant. On parlait même pas d'internet dans ce temps-là. Alors il y a une situation qui est probablement différente, quoique un aîné de 65 ans d'une époque à une autre, ça peut ressembler à un autre aîné de 65 ans qui a le goût d'être impliqué dans sa communauté également. Je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Ça se peut qu'on ait encore besoin davantage d'aînés. L'autre chose, évidemment, là, on se retrouve avec beaucoup de baby-boomers maintenant. Donc, c'est la situation, il y a beaucoup, beaucoup d'évolution de ce côté-là. Est-ce que les besoins ont changé? Peut-être que les besoins ont changé, mais je pense que de vouloir être impliqué il y a 30 ans et maintenant, moi, je pense que c'est relativement la même chose.
À l'exception de la situation économique dont vous avez parlé, puis du niveau technologique aussi, évidemment, si on peut pas passer à outre le développement technologique des dernières années, le désir de vouloir rester actif est quand même là.
Absolument. La contribution, je pense qu'est encore pleine et entière.
Donc, on devrait, dans un certain sens, valoriser le vieillissement encore plus parce que leur apport peut être encore plus grand, selon vous?
Absolument. Et une des choses, Anne-Marie, puis là, je vais utiliser mon chapeau de la Fédération des aînés des retraités francophones
Totalement.
De l'Ontario. Je veux parler pour ma paroisse, bien évidemment. On a comme mission la promotion, la qualité de vie de ses membres, la protection des droits et de leurs intérêts. Mais au-delà de ça, on a une mission importante qu'on s'est donnée, c'est de promouvoir l'image positive du vieillissement, l'engagement communautaire des francophones 50 ans et plus qui sont domiciliés en Ontario. Alors, je peux pas faire autrement que répondre de façon positive à votre question. Bien évidemment, ce serait bien embêtant pour moi de vous dire qu'on veut pas valoriser le vieillissement.
Oui.
Au contraire, je pense que une des choses, on a une présidente, Madame Elisabeth Allard, ainsi que notre directrice générale, Denise Lemire, qui font un devoir de marteler, littéralement, sur toutes les tribunes, la valorisation du vieillissement. Parce que, d'une part, les gens, plus on avance, parce que effectivement, on veut pas rester rouillés dans notre chaise.
Non, totalement.
Et la société a besoin. C'est pas juste comme « viens donc t'impliquer ». Il y a un besoin fondamental, justement, d'organiser des activités, de rendre la communauté très, très vivante. Et si on n'a pas le bénévolat, l'argent n'est juste pas là non plus pour payer de nombreuses personnes, de toute façon. Où est-ce qu'on irait chercher cet argent-là pour payer les gens, pour remplacer les bénévoles? C'est
exactement
le contraire qui se passe. Il y a moins d'argent. Ça prend plus de bénévoles.
Oui.
Et quand on en a pas assez, il y a des services qui tombent, littéralement. Oui.
Des services qui sont importants.
Absolument. Donc, on a... c'est presque pas un choix. C'est une nécessité aussi. Peut-être que ça a l'air négatif de dire ça comme ça, mais c'est d'autant plus... le message qu'on passe, c'est impliquez-vous dans votre communauté. Il y a tellement de choses à faire. C'est juste de choisir.
Oui.
On n'a pas besoin d'être tout bon dans la même chose.
Non, c'est
sûr. Il s'agit de voir quels sont mes intérêts. Si je me dis retraité ou je fais le choix de la retraite, et dire qu'est-ce que je peux faire justement pour m'impliquer, pour justement rendre la communauté encore plus dynamique.
Est-ce que vous avez, par exemple, des conseils ou des exemples à l'extérieur du bénévolat que les aînés pourraient être impliqués, par exemple, dans le sport, le mentorat, histoire, éducation, etc.?
Si on dit qu'on ne fait pas du mentorat, à ce moment-là, est-ce qu'on veut faire quelque chose parce qu'on veut être payé. Donc, parce que souvent, le bénévolat va être opposé à être payé. C'est certain que si moi, je suis impliquée dans comme aidant naturel dans la vie d'un de mes parents, c'est peut-être pas du bénévolat, mais à ce moment-là, je sens que j'ai besoin de contribuer à la vie de mon parent qui est peut-être en perte d'autonomie. Donc, je suis pas payée directement, mais c'est essentiel pour moi de faire ça. Souvent, on va justement opposer les deux. Si je suis pas bénévole, à ce moment-là, si je m'implique dans quelque chose, c'est peut-être pour être payé.
Mm-hmm.
Donc, et c'est peut-être parce que j'ai pas d'exemple en tête.
Okay.
Quand on regarde le sport, par exemple, si on regarde les jeux, par exemple, les jeux des aînés, il y a bien des chances que ça va être du bénévolat.
Oui.
Alors, de ce côté-là, il y a toutes sortes de possibilités, bien évidemment. Quand on siège à un conseil d'administration, de quel que soit, à un moment donné, au final, il y a du bénévolat.
Oui, c'est ça reste. Ça reste que
alors,
si c'est pas payé, c'est du bénévolat, en effet, oui.
Oui.
Dans les sphères dans lesquelles ils peuvent s'impliquer en tant que bénévoles, donc en tant qu'activité non payée, si on veut le dire de façon plus large, sont multiples, sont excessivement nombreuses, c'est ce que vous dites.
Absolument, tout à fait. Il s'agit juste de poser quelques questions autour de nous, peut-être de voir les gens qui sont déjà impliqués dans des organisations, qu'est-ce qui les amène justement à vouloir être impliqués dans ces organisations en particulier. Mais après m'avoir, je pense qu'un jeune retraité, idéalement, c'est de faire un petit bilan. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire justement pour contribuer à la mesure de ce que je suis capable d'offrir, de ce que j'ai le goût? Parce qu'il n'y a rien de pire que de se faire happer par du bénévolat qu'on n'a pas le goût de faire.
Oui, c'est ça. À cette période-là de sa vie, c'est de faire quelque chose qu'on veut faire. Oui,
de vendre des billets, c'est peut-être pas notre tasse de thé à tous. Puis dans certains cas, peut-être qu'on a le goût de faire ça par un club social quelconque. Mais en même temps, je pense que cette contribution-là, on doit en tirer quelque chose. On dit en anglais « what's in it for me
».
C'est pas juste « what's in it for pour l'organisation ».
Oui, exactement.
Comment on peut en retirer au maximum pour que les années où est-ce qu'on est encore en bonne santé, qu'on a le goût de contribuer dans notre communauté, ce soit qu'on ait l'impression qu'à la fin de la journée, on a vraiment on est satisfait de notre implication puis de ce qu'on a été capable de donner.
Il faut le faire pour soi, c'est ça. Il y a une grosse partie de se faire plaisir sens.
On le fait pour les autres, bien évidemment, parce que l'organisation va souhaiter avoir
l'acte de bénévolat,
temps, justement. Mais il faut aussi le faire pour soi, parce que si on sent qu'à chaque journée qui passe, on dit « Ah, il me semble que ça, je déteste ça, qu'est-ce que... » c'est pas le paiement.
Exactement. Mais malgré ce fait-là qu'il y a beaucoup d'activités, qu'on a beaucoup besoin de bénévolat, dont les aînés sont des très bons candidats à être bénévoles, on fait face aussi beaucoup à une situation d'isolement pour ce qui est des aînés. Donc, Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette situation-là?
Ce que moi, je vois souvent, l'isolement peut être créé par différentes choses. Est-ce que dans notre vie, est-ce qu'au niveau de notre santé, on est assez en bonne santé pour justement avoir le goût de faire quelque chose pour notre communauté? Parfois, on peut avoir commencé à avoir des pertes de mémoire, Et là, ça nous met juste dans une situation difficile. On se retrouve, et également, il faut penser, est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on est avec quelqu'un d'autre? À ce moment-là, on peut avoir moins le goût d'être impliqué si on est seul. Quoique, peut-être que ça va nous encourager, justement, À essayer de se connecter dans la communauté. Et il y a des gens, je pense, qui savent pas trop, peut-être que c'est plus difficile pour certaines personnes de savoir qu'est-ce que j'ai le goût de faire, qu'est-ce qui existe, là, dans ma communauté. Alors, ils ne trouvent pas adéquatement l'information Qui nous permettrait de prendre une décision éclairée sur qu'est-ce qu'on a le goût de faire. Parfois, il n'y a peut-être pas de transport en commun. Parfois, le bénévolat est peut-être un petit peu trop loin de chez nous. Mm-hmm. Alors, chaque collectivité amène les défis, justement, d'être bien connecté dans sa communauté. Et donc, si on n'est pas bien connecté, manque de ressources, on peut aussi pas avoir les ressources financières pour dire si lunch de 7, 8, 10 $, c'est même trop pour moi. Alors, à ce moment-là, oui, on peut s'isoler par manque, par manque de ressources pour faire ça. Donc, chaque situation est complexe.
C'est différent.
Et c'est pas nécessairement une question qui est facile à répondre, bien évidemment, là.
Je trouve ça vraiment intéressant les points que vous aviez apportés parce que souvent, le jugement qu'on peut entendre, souvent dans la société de façon générale, l'isolement est causé que par manque d'intérêt, ce qui est complètement faux, ce que vous avez dit, justement, Ce que vous avez parlé de problèmes de santé, peut-être de situation familiale, manque de ressources, etc., ce qui rend la situation beaucoup plus complexe. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir parler
absolument
de ça en onde, donc de défaire ce jugement-là qu'on pourrait souvent entendre.
Tout à fait. Et ce regard-là qu'on peut avoir, si on se recule un petit peu et on regarde chaque situation, ben les gens arrivent avec chacun leur bagage.
Oui.
Il faut respecter ça.
Oui, totalement.
Le bagage des gens.
Puis donc, est-ce que vous avez des idées? Là, on veut, par exemple, contrer l'isolement dans un certain sens, un peu ça qu'on fait, qu'on discute ici à cette émission-là. Est-ce que vous avez des conseils ou des lieux en particulier où les seniors pourraient se rencontrer par rapport à votre expérience puis votre position au sein de la FARFO?
C'est certain que chaque collectivité peut avoir certaines activités propices justement à l'implication. Comme je ne suis pas du tout de Toronto, je connais moins Toronto, quoique actuellement, évidemment, il y a un certain nombre de centres pour aînés. Puis dans chacune des collectivités en Ontario, il y a ce qu'on appelle des centres pour aînés.
Oui.
Ce n'est pas une résidence ou un centre de soins de longue durée, mais c'est plutôt des clubs d'activités. Et là, il y a plein d'occasions, justement, d'être branché avec sa communauté.
Oui.
Il y a aussi d'autres clubs dits sociaux. Donc, à ce moment-là, évidemment, je ne sais pas si à Toronto, il y a des filles d'Isabelle, il y a des chevaliers de Colomb.
Très québécois comme exemple.
Oui, davantage.
Je connais
mais même
ça,
en
ces
Ontario
noms-là.
Aussi, dans l'Est ontarien, donc il y a aussi cette tendance, on a des clubs sociaux.
Oui.
Cependant, on peut avoir, ça pourrait être peut-être un club de généalogie, ça peut être les Boys and Clubs, où est-ce qu'on cherche justement des mentors.
Oui.
Donc, ça peut être des Jeannettes.
Tout dépendant des intérêts de l'aîné en particulier.
L'ensemble de ces organisations-là. Et ça peut être un club de lecture pour des enfants à l'école. Alors, tous les conseils scolaires ont peut-être des occasions, justement, où il y a des activités ou est-ce qu'il y a de l'intergénérationnel qui se passe. Vraiment, je pense peut-être de consulter même le 211 que vous connaissez peut-être et que peut-être que vos gens de Toronto connaissent aussi pour s'adresser à sa collectivité plus proche pour voir comment on peut s'impliquer. Parce que, et comme je vous disais, avec un petit bilan, à ce moment-là, on dit, moi, j'ai le goût de faire ça. Donc, par rapport à son intérêt, regarder par la suite où est-ce que je pourrais combler cet intérêt-là dans notre collectivité. Et les collectivités diffèrent vraiment d'une région à une autre.
Puis vous avez parlé de conseils scolaires aussi, donc juste un petit rappel qu'à l'émission, on a parlé à Serge Paul, qui travaille avec le conseil scolaire Viamonde, qui justement parlait que la présence des aînés, donc intergénérationnelle, les relations intergénérationnelles étaient super intéressantes à encourager, à valoriser.
Tout à fait, tout à fait. Tous les endroits où on cherche des bénévoles, ce sont des endroits extraordinaires pour les gens, bon, de tous les âges, mais je vais pas parler pour ma paroisse, les 50 ans et plus. On a un groupe qui s'appelle l'Ami Farfaux, qui est l'association des membres individuels, et ces gens-là restent un petit peu partout en province, et c'est une nouvelle organisation, et on est en train de voir à l'organisation d'activités spécifiquement pour eux aussi. Okay. Alors, je vous dirais qu'il y a tellement de possibilités, on pourra en parler probablement jusqu'à minuit ce soir.
Donc, pouvez-vous nous dire, Madame Goujon, quelques mots sur le projet Sécurité Info Santé?
Oui, merci. Donc, ce qu'on a comme projet, c'est un programme pilote de la Fédération des aînés des retraités francophones de l'Ontario, hein, on se rappelle de ça, qui traite de sécurité pour les francophones, mais aussi en cours de route, on a inclus les francophiles et anglophones, entre autres, parce qu'on sait qu'il y a des anglophones qui ont bénéficié aussi de ce programme-là. Et ce que ça permet, entre autres, le programme Sécurité Info Santé, c'est ça permet aux paramédics d'avoir accès à des renseignements pertinents sur la santé de la personne qui a une capsule de vie dans son domicile. Donc, qu'est-ce qu'une capsule de vie? Ça a l'air d'une capsule de médicaments, littéralement. Et à l'intérieur, on a un formulaire qui s'appelle Fiole de vie. Et sur ce formulaire-là, on répond à quelques questions sur sa santé. On met sa liste de médicaments dans la capsule et on met ça au congélateur avec un autocollant sur la porte du congélateur. Donc, si jamais on est dans une situation de détresse, qu'on appelle le 911, les paramédics arrivent à la maison et ils regardent l'ensemble des informations.
Okay.
Ce que ça permet de faire, c'est nous amener à l'hôpital beaucoup plus rapidement.
Oui.
Parce qu'une des choses, quand les paramédics arrivent, ils ont plein de questions. Et quand l'information est disparate un petit peu partout et qu'on est... Bon, pour commencer, si on n'est pas conscient,
c'est bien
difficile de répondre à des questions, surtout si on est seul. Donc ça permet vraiment... c'est pour ça que c'est un élément de sécurité qui est important. Donc, l'autre chose, on s'est aperçu dans la recherche de cette information-là pour voir qu'est-ce qu'on mettrait bien en place. C'est une bonne vieille idée qu'on a recyclée. Parce que dans le coin ici, il y a une organisation, il y a 25 ans, qui avait un tel projet. Il y a aussi les VON et la Croix-Rouge qui ont déjà eu ce type de capsule. Donc, puis avec les baby boomers qui sont un peu partout.
Oui.
Alors, à ce moment-là, quand moi je présente le programme, je présente le concept de sécurité et j'ai pas eu beaucoup de gens qui m'ont dit « c'est bien niaiseux cette affaire-là ». Ils m'ont tout dit « c'est bien génial ce programme-là ». Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, plus on avance en âge, plus on a de médicaments.
Oui.
Mais on veut rester à la maison le plus longtemps possible. Donc ça s'inscrit un petit peu dans cette lignée-là de vouloir faire ça. Puis on est de plus en plus préoccupé par notre sécurité. Donc ça, c'est un élément de sécurité avec lequel les gens se sentent très, très confortables avec ça.
Vous avez parlé d'autres organismes comme par exemple la Croix-Rouge qui avait des programmes similaires et ils en ont plus ou...
Non.
OK.
Ça fait déjà... Et moi, j'ai croisé des gens dans le cadre de mes présentations. Entre autres, j'ai fait une centaine de présentations.
Wow.
Et on a remis dans le cadre du programme pilote tout près de 10 000 capsules dans les régions ici. Il y a des gens qui avaient encore la capsule de la Croix-Rouge dans leur congélateur. Puis ça faisait 15-20 ans de ça. Donc, on sait que c'est quelque chose... Si on le garde à jour, on peut garder ça longtemps. Tout ce qu'on qu'on a besoin de faire, mm-hmm. c'est de garder le formulaire à jour et de garder notre liste de médicaments à jour au cas où, effectivement, on aurait à appeler le 911. Et à oui. ce moment-là, notre information, les paramédics n'ont pas à chercher l'information un petit peu partout oui. autour de nous, là.
C'est un certain réconfort là, de plus à ajouter. Oui. C'est vraiment intéressant. C'est
absolument. Vraiment...
Oui. Puis donc, ça explique un peu, dans un certain sens, d'où vient l'idée du projet. C'était, je suppose, entre autres, de l'inspiration des anciens projets qui étaient là aussi par avant des
oui.
autres organismes.
Absolument. Et il y a eu aussi de la recherche qui a été faite, là, 2012 à peu près, là, parce que c'est un projet qui a pris un certain temps à mettre okay. en place,
combien
à être
temps?
Financé. Même de 2012, il y a eu de la recherche. Ça fait quand même, ça prend un bon 2 ans et okay. un petit peu plus là, avant que le programme soit financé. Alors, il y a eu une recherche qui a été faite par la Fédération des aînés francophones du Canada pour essayer de trouver des programmes de sécurité. Et là, de fil en aiguille, de discussion en discussion, ce projet-là de capsule de vie, on a dit, oh mon Dieu, et c'est Gilles Blache, entre autres, qui est le pionnier là de ce nouveau vieux projet. On le fait évoluer au cours de la dernière année.
Okay.
Parce que comme c'est un programme pilote, à ce moment-là, il faut penser à l'améliorer même en cours de route.
Oui.
Donc, on a apporté des améliorations et on avait un volet de bénévoles visiteurs donc qui a été mis en place. Ça a été, on a un certain nombre de bénévoles visiteurs. Ça, c'est un peu plus mitigé. Pour toutes sortes de raisons, la confidentialité, donc ça a été plus difficile, mais on
ouais.
a fait quand même des visites.
Okay.
Et on a aidé beaucoup de gens, justement, à compléter, à remplir le formulaire
oui,
dans la
capsule.
C'est pas
toujours facile.
Alors, non pas... Ben, oui, effectivement, ça peut... dans certains cas, les gens sont embêtés
oui.
Quand il s'agit de remplir des formulaires. Donc, à ce moment-là, on a aidé quand même plusieurs personnes à le faire.
Alors, tout âge confondu. Hein? Moi, je n'ai que 26
tout
ans
âge,
et à
oui.
chaque fois que je dois remplir un
oui.
formulaire, c'est toujours un casse-tête.
Oui,
donc,
absolument, absolument. Alors, on peut comprendre que... parfois, on se demande si les gens qui font les formulaires sont capables de se mettre dans la peau de la population en général.
Oui.
Hein? On peut se poser cette question-là.
Donc, est-ce que vous avez un site Internet ou une façon de vous rejoindre par rapport à ce projet-là, des auditeurs qui seraient intéressés à avoir plus d'informations ou vous poser des mm-hmm. questions, une façon de vous rejoindre?
Oui, absolument. C'est le www.farfo, donc F-A-R-F-O, .ca/SIS.
Parfait. Donc, www.farfo.ca/SIS. C'est bien ça?
Oui. SIS, c'est effectivement Stéphane, Irène, Stéphane.
Parfait. Donc, je vous remercie, Madame Goujon, d'avoir passé un petit moment avec nous, de nous avoir parlé de votre organisme, de ce projet-là. C'est vraiment intéressant. Puis, ça rejoint complètement à 100% en fait le but de cette émission là de la jeunesse n'a pas d'âge, de vraiment de valoriser le vieillissement parce qu'on peut en apprendre là à tous les jours, toutes les générations peuvent en apprendre.
Merci beaucoup Anne-Marie.
Ben ça fait plaisir, au revoir.
Au revoir.
Nous venons donc d'entendre Andréanne Goujon qui est coordonnatrice des bénévoles et coordonnatrice de programme.